Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec le café de la critique où ont pris place Patricia Martin des petits matins du week-end de France Inter avec Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et surtout de la revue Charles avec Frédéric Becbédé du Figaro Magazine. Et avec Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française, Michel qui publie ces jours-ci chez Gallimard un empêchement essai sur l'affaire Fillon, affaire où le directeur de la revue des Deux Mondes que tu étais alors a été assez violemment propulsé. Et donc tu reviens sur cette affaire, mais dans un essai plutôt plus littéraire que politique.
Oui, plus guilleret.
Guilleret, c'est beaucoup dire pour l'affaire, mais...
Mais j'ai eu l'impression que le paysage politique français réclamait un dessin.
Voilà.
Et donc j'ai pris ma boîte de crayons de couleur et j'ai fait un dessin.
Très bien. Ben moi je ferai une petite notule si tu veux bien, bien payée dans la Nouvelle Revue Française.
Il faut discuter.
Sur ce livre. On parle ce soir du café existentialiste de Sarah Beckwell, mais également des livres de Philippe Lançon, de Stephen et de son fils Owen King, du nouveau livre de Ludmila Ulitskaya et du roman de Grégoire Delacour. J'ai fait le compte, c'est l'équivalent de 2600 pages que je vous ai imposées ce soir, d'où l'air un peu fatigué que vous avez les uns et les autres. Dans le courrier de la semaine, Amélie Planade s'en prend à Michel à propos de Bitna de Le Clésio chez Stock. Je désire vivement réagir au sexisme ordinaire dont vous avez fait preuve. Vous disiez que le niveau du livre était faible, écrit pour des adolescents, digne d'un premier roman. Mais était-il nécessaire de préciser un premier roman écrit par une jeune fille? Il est inadmissible d'entendre ce type de propos en 2018. Pour sa part, Soazie Glebay reproche à Nelly d'avoir dit que Bitna était un livre pour enfants. Les enfants sont idiots, bien sûr, stupides, ne savent pas lire, n'ont aucune sensibilité littéraire. Alors donnons-leur des livres sans intérêt, ils le méritent bien. Et cette auditrice de préconiser de se pencher dorénavant sans arrogance ni condescendance sur les livres pour enfants. Philippe Vareille, étudiant, a lui aussi bondi en entendant au masque le dernier livre de Le Clésio. Bitna n'a pas à être vendu dans une collection pour adultes. C'est à cause d'un tel manque de considération que le secteur jeunesse est aujourd'hui en difficulté. Même sentiment de Justine Arrêt qui s'insurge en tant qu'éditrice de littérature pour ados. Je trouve ce jugement sur une littérature créative trop méprisant. À propos de « Je ne suis pas une héroïne » de Nicolas Farc chez POL, Emma Kakou nous écrit « Pour vos critiques qui semblent découvrir le sujet abordé par M. Farc » et qui penserait que les écrivaines noires francophones se limitent à Marine Diaye, je conseillerais de Fatou Diome, Le ventre de l'Atlantique, qui date de 2005. Et je vous informe qu'en littérature, au cinéma et au théâtre, se multiplient les voix de celles qui parlent en leur nom. Tiens, Marlène Cavagna était choquée, Arnaud, par ta phrase disant à Olivia dans le dernier masque littéraire, qui n'aimait pas Olivia, le roman de Jonathan Little, n'a pas aimé que tu lui dises « Fais pas ta blonde ». En quoi se moquer de la couleur de cheveux d'une personne est-il moins grave que de discriminer une race ou un sexe? Les blondes sont-elles intrinsèquement quoi au juste? Qu'a-t-il voulu, Arnaud, sous-entendre par cette phrase ?
Non, pardon pour cette blague de l'ancien monde, je recommencerai pas.
Philippe Chavernac remercie Jean-Claude Raspienjaz d'avoir recommandé en fin d'émission « Le syndrome de la chouquette » chez Anna Moza, un ouvrage qui se savoure comme une chouquette. Après la lecture, vous ne verrez plus la petite offrande du chef de service du lundi matin, quelques chouquettes rapidement achetées à la boulangerie du quartier, comme avant. Enfin, Paul Luguen de Toulouse, un sportif et un fidèle du masque du lundi, je dis bien du lundi. Cher Jérôme Garcin, je fais tous les lundis matin mon jogging en écoutant le masque de la veille via le podcast. Je prépare actuellement les 10 km de Balma, près de Toulouse. Sur mes deux premiers kilomètres, il me faut un rythme fort pour faire du 5-30 au kilomètre. Il faudrait donc au début de l'émission, vous parliez des films, des livres ou des pièces qui font débat. Haussement de ton, énervement, mauvaise foi, c'est bon pour mon cardio. Puis vous passez ensuite aux critiques molles, ni pour ni contre. Je suis à ce moment-là sur mon rythme de croisière du 5-50 au kilomètre. Enfin, je dois finir mes deux derniers kilomètres avec des accélérations. Aussi, je vous supplie de supprimer la rubrique « conseils ». Veuillez, s'il vous plaît, à la place, introduire une séquence à fuir. Un bon petit coup de stress en fin d'émission et je passe la ligne sous la barre des 55 minutes. Merci pour tout. Ben non, on va quand même garder les conseils. Allez, on commence. C'est pas facile d'ailleurs de commencer l'émission avec ça. Avec Le Lambeau, c'est le gros récit, 500 pages, que signe chez Gallimard, Philippe Lanson, critique culturel à Libé, chroniqueur à Charlie Hebdo et un temps critique au Masque et la Plume, théâtre. Gravement blessé le 7 janvier 2015 lors de l'attentat de Charlie, il raconte dans ce livre comment sa vie a basculé dans l'horreur. La scène de l'attentat, qui est longue d'une soixantaine de pages, est presque d'ailleurs, je parle en tout cas en mon nom, presque insoutenable à lire. Les balles des frères Kouachi lui ont arraché la mâchoire, l'ont défiguré, en ont fait au sens propre une gueule cassée, blessure de guerre, a dit d'ailleurs le pompier qui le transportait. Le livre de Lanson va courir de janvier à novembre 2015, c'est-à-dire les mois d'hospitalisation à la Salpêtrière, où il a subi 17 opérations, et ensuite aux Invalides, mois de souffrance, je ne souffrais pas, dit-il, j'étais la souffrance, et de reconstruction, et là je le cite, ma mâchoire inférieure ayant disparu, on avait greffé à la place mon péroné droit, accompagné d'une veine et d'un bout de peau de jambe qui, sous le nom de palette, me tenait lieu de menton. Un livre, d'ailleurs, où il dit tout au long de ses 500 pages ce qu'il doit à ce que Char appelait des alliés substantiels, parmi lesquels Proust, Kafka, Thomas Mann, Velázquez et Bach, qui comparent même à une morphine, à l'effet de la morphine. Livre évidemment très impressionnant, bouleversant et encore une fois parfois difficile en tout cas à lire, Patricia.
Il était la souffrance, tu viens de le dire. Il y a une autre phrase où j'avais noté où il dit « Je n'avais pas de chagrin, j'étais le chagrin ». Effectivement, il y a quelque chose d'indicible pour lui, parce que il le dit, il a l'impression d'être à côté de lui-même et d'insupportable pour le lecteur. Et c'est quand même un livre paradoxal, parce que malgré tout, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais c'est un livre d'une grande beauté esthétique qui commence au moment effectivement de... Enfin, ça commence pas par ça, mais très vite, non. On en vient à la scène fondatrice.
Ça commence par là, en fait, par le moment
par la veille.
Très émouvant. C'est même les semaines qui ont précédé, voilà, tous les rêves qu'il avait d'aller, voilà, enseigner à Princeton. Voilà, il venait d'écrire un article sur Welbeck. C'était sa vie ordinaire, finalement.
Mais il y a évidemment cette scène inévitable qui est la scène fondatrice de la fusillade. Et là, c'est effectivement horrible à lire, mais il y a cette danse de Matisse qui vient presque à sa rescousse et qui rend les choses lisibles. Après, à la fin, quand il est aux Invalides, parce que je trouve que la fin est très très forte, il y a deux gars, il y a Watteau. Donc c'est esthétique, mais c'est jamais esthétisant, évidemment, parce qu'il cogne sans arrêt dans un réel absolument épouvantable, en éliminant... Parce qu'on pourrait dire que c'est un livre impudique. En fait, il n'est pas du tout impudique. Je pense qu'il élimine la pudeur à chaque fois que ça pourrait l'amener à mentir. Il dit des choses sur lui, sur son délabrement et sa reconstruction absolument épouvantable. Et là, il y a un côté philosophique, moi, qui m'a fait penser à Montaigne, même si, évidemment, les maladies de Montaigne, qui étaient la gravelle ou la goutte, n'avaient rien à voir avec ce qu'a vécu Lanson. Mais il devient objet de sa propre étude. Et là, moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Et ce que je trouve aussi très fort, c'est qu'il est dans une solitude absolue. Il parle évidemment de lui, mais il parle aussi énormément des autres. Et il y a des portraits éblouissants.
D'autres malades,
des rescapés, de tout le personnel soignant. Absolument. Et quand on a fréquenté les hôpitaux, tout ça est tellement juste. Ce médecin, Chloé, avec laquelle il entretient une relation particulière.
C'est la chirurgienne.
Mais aussi ses parents, qui sont absolument formidables. Ses amis, son frère, sa femme, enfin il y a tout
ses policiers, il a quatre policiers.
Les policiers qui changent évidemment sans arrêt.
Même d'ailleurs, j'ai découvert dans le livre que ces policiers entraient au premier temps dans le bloc pour assister, pour le protéger et assister aux opérations, sauf qu'ils avaient leurs fusils Beretta au poing et des charlottes et des surchaussures dans le bloc pour être, parce que évidemment un rescapé de Charlie est une cible potentielle. Arnaud.
C'est un livre, on peut pas le critiquer finalement, en fait. Il y aurait une espèce d'obscénité à le critiquer comme on va critiquer le Stephen King. Voilà, c'est autre chose dont il s'agit.
C'est pas le même enjeu que Grégoire Delacour. C'est ça
voilà.
Qu'il veut dire.
Mais en fait, ce livre, moi, m'a donné à penser à une notion qui est celle du partage. Alors, à deux niveaux. Ce qu'il raconte, qui est terrible évidemment, durant l'attentat, c'est que il est par terre. Il ne peut pas bouger, puisqu'il d'abord il doit faire le mort.
Il dit d'ailleurs « je faisais le mort ».
Voilà, « je faisais le mort ». Et ses yeux, son regard arrive directement sur une chose qui va le hanter, c'est la cervelle de Bernard Maris qui sort de sa boîte crânienne. Et cette image-là, donc, il raconte combien elle revient le hanter continuellement.
Long,
voilà, tout au long du livre. Et je trouve que, évidemment, je n'ai pas vu cette image, mais d'une certaine manière, je la prends en partage. Je trouve qu'il y a un côté presque eucharistique de la littérature qui est très fort et qui fait que, oui, moi, maintenant, depuis que j'ai lu ce livre, il m'arrive de penser à la cervelle de Bernard Maris qui sort de sa boîte crânienne. Ça, c'est la première chose, c'est la première idée de partager. Il y en a une autre, mais qui m'a vraiment, comment dire, offusqué, c'est que c'est un grand livre sur la santé française, sur nos services hospitaliers. Et à un moment, Philippe Lançon raconte que dans les jours qui suivent l'attentat, il a évidemment non seulement des blessures à la mâchoire, mais aussi aux bras, etc. Et donc, quand il prend sa douche pour protéger ses plaies, on lui met des sacs poubelles. Et sa compagne, qui est américaine, s'étonne en disant « mais ils n'ont pas autre chose que des sacs poubelles ». Et là, Philippe Lançon écrit cette phrase « l'hôpital était fauché ». Et ce verbe-là, fauché, qui rappelle quand même l'idée aussi que la rédaction de Charlie a été fauchée, je l'ai trouvé abominable. Je me disais, comment se fait-il que nous, la sixième puissance au monde, nous puissions avoir des hôpitaux fauchés, la salpêtrière quand même, hein, fauchés au point d'utiliser des sacs poubelles. Et je crois que là aussi, il y a une idée du partage qui passe dans ce livre et qui est...
Je comprends ce que tu veux dire, Arnaud, mais il faut dire aussi qu'il y a dans ce livre un hommage rendu au personnel hospitalier, aux chirurgiens, jusqu'aux infirmières.
Mais là, il s'agit d'autre chose, franchement. Qu'il y ait un tel dénuement, qu'on utilise des sacs poubelles, franchement, il y a un problème, et on le sait bien. Patrice Peloux, qui faisait partie de la rédaction de Charlie, qui est le premier, d'ailleurs, l'urgentiste, est arrivé sur le lieu du drame, qui aujourd'hui vient de passer à Ciné Mensuel, d'ailleurs, a écrit une chronique en expliquant comment une femme était morte d'être restée 3 jours sur un brancard aux urgences d'un hôpital. Voilà où on en est aussi, et je trouve que ce livre parle de ça aussi, du partage.
Frédéric.
Mais il est moins en colère que toi, c'est ce qui surprend dans le livre.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas du tout de colère dans son livre.
Il est très calme, c'est
y compris, c'est ce qui en fait la force. Kouachi ou leurs amis. Hein. C'est très étonnant. Il n'y a pas une seule phrase en 500 pages
de revanche,
de colère ou de revanche haine. Contre les terroristes. Hein.
Non, c'est un monument, vraiment un chef-d'œuvre. Pour moi, un chef-d'œuvre, c'est quoi ? C'est la rencontre d'un sujet et d'une voix, d'une histoire et du style unique fait pour cette histoire, sur mesure pour cette histoire. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas une virgule de trop, et ça fait 600 pages. J'ai été absolument bouleversé, je pense qu'il n'y a rien à... On ne peut pas tellement commenter un livre pareil, c'est quelque chose d'unique, on peut juste pleurer et remercier l'auteur qui écrit quelque chose d'aussi grand.
Oui, c'est la transformation qui est rarissime, il faut dire, d'une douleur absolument indicible, en œuvre d'art, ce qui reste, mais qu'on comprend aussi à la mesure de sa propre fréquentation des livres, des œuvres d'art, de la musique.
Alors, par provocation, on pourrait dire que c'est peut-être la seule conséquence positive des attentats du 7 janvier, c'est ce livre. Parce que il a inspiré à Philippe Lançon un très grand roman. Il n'avait pas tellement réussi les deux précédents. Et donc ça, c'est incroyable. J'ai essayé de me renseigner pour savoir s'il y avait déjà eu un livre sur ce sujet-là, c'est-à-dire un auteur touché par un attentat. Il y a une Israélienne, Zeruya Shalev,
absolument,
qui a écrit « Douleur ».
Mais qui était un tout petit peu romancé il y a quelques années.
Mais autrement, je crois que c'est la première fois qu'on est face à cet objet unique.
Et qui n'est pas, encore une fois, facile d'évoquer au masque et la plume. Michel.
Effectivement, Jean-Sébastien Bach ressort de ce livre comme la figure du patron absolu. Enfin,
je dirais du chirurgien absolu.
Oui, c'est extraordinaire de considérer cette présence de Bach dans le livre. Je dirais simplement deux choses. Pour moi, il y a un peu deux livres. Il y a d'abord le livre qui raconte l'attentat, et c'est un peu comme si, enfin je parle pour moi bien sûr, mais c'est un peu un Dallas de près, comme si on pouvait toucher. D'ailleurs, Lanson le dit très bien, il voit les pieds du tueur qui va et vient dans la pièce.
Et la Kalachnikov.
Et on est dans une proximité vis-à-vis du meurtre, vis-à-vis du crime, qui est extraordinairement troublante et vertigineuse. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort dans cette première partie du livre. Et la deuxième chose concerne évidemment tout le temps des séjours en hôpital, des soins, de la médecine, où on a l'impression que Lanson est comme un Robinson Crusoé sur son île, obligé de, alors même qu'il est aidé, alors même qu'il est pris en charge, qu'on s'occupe de lui, il est dans une solitude à l'égard de sa propre douleur qui m'a rappelé bizarrement l'expérience de Robinson Crusoe qui est obligé de se débrouiller pour faire face. Parce que c'est d'une certaine manière une situation analogue. Et Lanson donne à cette situation une envergure extrêmement simple. Ce livre est d'une simplicité absolue.
Absolument.
Parfois, je dirais, c'est une critique qu'on peut faire quand même. Je crois qu'on peut faire de la critique littéraire sur ce livre. Parfois un peu saturé. On est presque un peu obligé d'attendre que le flux reprenne son cours. Il y a des moments comme ça qui auraient peut-être pu accepter quelques coupes. Enfin bon, mais c'est absolument
pas. Mais les digressions sont des respirations aussi, et on en a besoin.
Les digressions, on peut les prendre aussi comme ça. Enfin, c'est pas le problème, mais voilà, c'est la seule petite.
Et puis il y a des choses qui sont quand même. Moi, j'ai noté à propos de Charlie Hebdo, dès le début, ce petit journal qui ne faisait de mal à personne. Oui. Et ce moment qui est d'une délicatesse incroyable, on s'y attend pas parce qu'il y a tellement de cruauté au sens propre et de crudité dans ce livre. Tout d'un coup, il y a une anesthésiste qui vient pour le piquer et il dit pardonnez à mes veines, elles sont timides. J'ai trouvé ça absolument.
Je dois dire que j'ai été aussi
d'une délicatesse infinie. Allez, Le Lambeau, c'est Philippe Lanson, c'est chez Gallimard. Ne courez pas dès demain matin, dès lundi, parce que sachez que le livre ne sortira que le 19 avril. On est un tout petit peu en avance, mais pour un grand livre, on a le droit de l'être. Totalement différent, La femme qui ne vieillissait pas chez Lattès, c'est le nouveau roman. Et nouveau succès de Grégoire Delacour, l'auteur de La liste de mes envies. Et comme toi d'ailleurs, Frédéric, ancien publicitaire.
Oui, c'est vrai.
Un conte sur un sujet auquel d'ailleurs ne devrait pas non plus être indifférent, l'auteur d'Une vie sans fin.
Oui.
Puisque le sujet, mon cher Frédéric, c'est l'éternelle jeunesse. Alors il se glisse de la cour une fois encore dans la peau d'une femme. Il avait déjà fait deux fois de suite. Hein. Là, c'est Martine, Betty, née en 52 dans le nord de la France, d'un père revenu d'Algérie avec une jambe en moins et d'une mère fauchée à 35 ans par un chauffard. Elle, Betty, elle fait ses études à la Cato de Lille. Elle rencontre André, un charpentier et compagnon du devoir. Elle l'épouse, elle lui donne un fils. Et à 30 ans, alors qu'elle est directrice de création à La Redoute, elle réalise soudain qu'elle ne vieillit plus, comme toi, Patricia. Elle a tout d'un coup le rêve de toutes les femmes, un rêve qui va évidemment tourner au cauchemar, puisque son mari la quitte, son fils supporte mal.
Non, mais c'est bien la peine.
Qu'on prenne sa mère
pour
ça. Qui en
plus il se dit, alors de toute façon, quoi qu'on fasse, ils s'en vont.
Sa mère pour sa copine. Bref, elle n'aspire plus qu'à redevenir comme les autres, c'est-à-dire vieillir inéluctablement. Alors, il va se passer quelque chose quand elle aura 63 ans, mais je respecte les épilogues, donc je ne révélerai pas ce qui va se passer à ce moment-là. Patricia, tu as été touchée par cette histoire?
Ah, terriblement.
Hein,
j'avais envie de t'étrangler en lisant ça, en me disant, mais pourquoi il nous fait lire un truc pareil? Enfin, si on n'était pas à l'entête de France Inter, je qualifierais le livre d'une certaine manière. Alors moi, j'ai...
Non, mais bon, t'as le droit, hein.
Bref.
Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais c'est n'importe quoi. Enfin, on se fiche même de l'histoire. C'est tellement lourd et nul. Alors, j'ai pris quelques citations.
Ah, ça vient.
Les hommes sont la plus belle conquête des femmes. La leur, c'est le cheval. C'est bien, hein. C'est la guerre toujours qui broie l'immensité des possibles et ratiboise l'infini de l'amour. Alors j'en ai trouvé une autre. Il n'est pas de chagrin d'homme qui ne puisse devenir une source d'amour.
Mais, voilà. tout ça est vrai.
Je te parle plus. Voilà.
Si jamais un jour j'écris une phrase comme ça, je vous demande de me piquer.
Oui, exactement. Je viendrai, je t'assure. Service.
Même si
oui, effectivement, à un moment donné, il faut piquer les gens. C'est vrai, il a raison.
Mais
c'est pas possible, enfin.
Tu sais que ça marche très très fort. Hein.
Mais nos comment là-dessus.
Michel.
La couverture, oui, elle est belle, la couverture.
Michel.
C'est évidemment terrible. Non, c'est-à-dire que c'est ce qui est terrible, c'est toujours ce qui se passe avec les livres qui reposent sur une idée. Il a eu une idée. Comment il s'appelle déjà
Grégoire Delacour.
Grégoire Delacour. J'arrive jamais à me souvenir exactement.
Tu n'avais pas lu la liste de maisons.
Si, j'ai tout lu. Parce qu'on en parle toujours au masque.
Il y avait aussi On ne voyait que le bonheur.
Et donc, un livre qui repose sur une idée, c'est forcément une catastrophe. Et voilà, donc, c'est pas grave. On va s'en remettre.
Donc, tu ne veux pas dire davantage de choses, non?
Non, parce que je trouve vraiment que
c'est vrai,
je n'ai absolument
dire,
pas
y a
été.
Rien
enfin,
à dire.
Savez-vous que c'est l'auteur préféré de Brigitte Macron?
C'est vrai?
Oui, ah ben j'ai lu ça. J'ai lu ça quelque part. Oui, elle adore Grégoire Delacour. Tout à fait.
Delacour?
Oui. Mais ça n'a rien à voir avec le titre du livre. Hein. Ce serait pas drôle. Mais on assiste, et là, sur le plan sociologique, c'est important, on assiste en ce moment à une grande offensive de gnangnantisation de la littérature populaire. Et ce n'est pas que Grégoire Delacour. J'ai lu le Joël Dicker. J'en citerai pas d'autres parce que voilà, il y en a beaucoup. Si vous prenez la liste des meilleures ventes.
Il y a aussi Vers la beauté.
Voilà, tout à fait. Et donc, il y a cette espèce d'offensive de littérature, en fait, qui consiste à dire « achète mon bouquin, je vais te faire du bien ». Le héros a une vie de merde au début, puis ça s'arrange parce que tout le monde s'entraide. Cette littérature-là, moi, je trouve que c'est une littérature de faillot. C'est-à-dire, ce sont des livres lèche-cul qui cherchent à séduire les masses en racontant des fables idiotes.
Et méprisant, lèche-cul est méprisant. Oui. C'est très méprisant.
Méprisant pour qui, tu veux dire?
Pour ceux auxquels ça s'adresse. Tu peux faire quelque chose de populaire et qui sera.
Non, mais alors là, il n'y a pas que lui.
Moi, je préfère un Marc Lévy, hein, franchement. Au moins,
je préfère
qu'il se fiche moins de son lectorat.
Je préfère un Philippe Lanson,
évidemment.
Oui, mais c'est pour ça que je vous disais que c'est très difficile de faire ces émissions.
Mais il faut reconnaître ce Grégoire Delacour un talent inouï pour maintenir constamment un degré de banalité très élevé.
C'est un métier.
J'avais noté cette phrase aussi quand elle dit, Betty, donc elle n'arrive pas à vieillir. Je voulais vieillir auprès d'un homme bon, patient, et puis un jour être grand-mère. Devenir ces petits vieux que l'on croise parfois dans un parc sur un banc, qui se tiennent la main et dont les beautés ont déteint l'un sur l'autre.
Je porte plainte.
Pour le faire, ça. Arnaud.
Vous êtes dur.
Chef-d'œuvre.
Bon, une fois qu'on a une satire contre la cosmétique, les produits cosmétiques, les crèmes anti-rides, tout de suite, là, voilà. L'idée, un livre qui repose sur une idée, cela dit, j'ai le souvenir quand même dans mon adolescence d'avoir lu un chef-d'œuvre qui, pour le coup, n'a pas pris une ride. Parce que je l'ai relu récemment, qui est Le portrait de Dorian Gray.
Ah bah oui.
C'est la version,
mainstream.
Oui, ouais, banale de ça. Mais, quand même, il y a une chose totalement, moi, j'ai trouvé très forte, quoi. C'est que, tu veux pas révéler la fin,
non,
mais, mais à 63 ans quand même.
Ah non 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 non
mais
non
si,
non.
Non mais si.
Non,
mais
non.
À 63 ans,
ils ont,
donc
ils vont
elle marie,
pas les lire.
Elle marie son fils et durant la cérémonie de mariage, elle se fait draguer par le frère de sa bru. Ils couchent ensemble et là,
oh non,
il prend la parole. Non, il faut quand même.
Oh non,
il prend la parole et il dit. J'ai couché avec beaucoup de femmes, j'ai fait beaucoup de choses sexuelles avec elles, mais c'est la première fois qu'une femme me demandait ça. Et là, donc, elle perd son pouvoir. Mais ça, c'est quoi?
C'est bouleversant.
Qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire? Il lui a déféqué sur la figure. Franchement, je suis resté là, totalement, mais en me disant, là, il y a une énigme.
C'est cette scène-là
formidable.
Qui t'a fait aimer ce livre, finalement.
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il lui a fait. C'est raconté comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il lui a fait? Moi, j'essaie d'envisager les trucs, mais vraiment bien crade, là, bien ça, bien.
Tout ça, c'est juste pour prouver qu'il l'a lu jusqu'au bout.
Oui. Contrairement à vous, d'ailleurs, hein, parce que ça, tu l'avais pas vu, cette scène.
Mais si, mais bon, on s'en fout.
Et ça t'a pas interloqué, mais qu'est-ce qu'il a bien pu
je
faire?
Je maintiens ma
blague. T'as bien des souvenirs,
pourquoi
quand
tu
même.
Oh, tu sais, avec l'âge, même les souvenirs s'en vont. Hein.
Oh.
Donc voilà, quand même, ça mérite un léger coup de chapeau.
J'adore la manière dont Arnaud Vivian ce soir, mais de manière très héroïque, a tenté de sauver la femme qui ne vieillissait pas. De rien avec le titre, c'est formidable.
Le livre risque de vieillir plus vite que son personnage.
C'est chez Lattès, et c'est donc de Grégoire Delacour. Il y a encore question de femme avec Sleeping Beauties, traduit par Jean Hesch chez Albin Michel, un roman, là j'étais discret, 830 pages.
Merci beaucoup.
Je l'ai pesé, je voulais voir.
Roman co-signé donc par Stephen et Owen King. Le père du fantastique et son fils cadet imaginent que les femmes du monde entier, frappées par la fièvre Aurora et engluées dans un cocon visqueux, sont inatteignables durant leur sommeil. Alors si on tente de les réveiller, elles se métamorphosent en furie, vengeresse et assassine, ce qui provoque la fureur des hommes qui ne s'accommodent pas, il faut les comprendre, d'être privés de femmes. Une seule d'ailleurs, Evie, qui habite Dooling, une petite ville des Appalaches, semble immunisée contre cette maladie. Elle communique avec les rats, avec la nature. Et elle est arrêtée par une femme, là, la shérif Lila, pour avoir tué un dealer, et même deux d'ailleurs, psychotiques et violeurs. Alors, on marche ou on marche pas? Frédéric, toi qui reviens d'ailleurs des États-Unis.
Des États-Unis, hein, tout à fait.
Comment ça se passe?
Il y avait un congrès sur ton œuvre.
J'ai donné une conférence à New York University, tout à fait. Les gens rient alors que c'est la vérité. C'est triste.
Est-ce que tu pourrais en français nous dire ce que tu penses de ce livre que tu as sans doute lu en anglais?
J'ai des souvenirs de lecture de Stephen King dans mon adolescence qui m'avait fait très peur. Il y en a un, Kuro, l'histoire d'un chien terrifiant. Et j'avais dû dormir la lumière allumée après parce que j'avais vraiment très très peur.
Je suis content de l'apprendre ce soir. Enfin, c'est bien que tu viennes au masque pour raconter des souvenirs et des traumatismes d'enfance.
Ça m'aide un peu d'en parler.
Oui, je sais bien. C'est bien que je puisse devant le public, d'ailleurs.
Donc, j'avais des souvenirs. Ou plutôt, c'était efficace.
C'est là que tu as commencé à faire pipi.
Et là, je me suis vraiment beaucoup je me suis beaucoup ennuyé. J'ai trouvé ça très, très, très lent à l'allumage. Ouais. Pas très gore par rapport à mes souvenirs. Il y a un moment poétique parce qu'il y a cette chrysalide très belle, une femme qui est enrobée dans une sorte de cocon. Donc ça, c'est assez poétique, disons. Mais non, je pense que c'est pratique pour faire de la muscu parce que je l'ai lu allongé dans mon lit. Et quand on le porte dans les mains et à ce moment-là, ça fait les biceps, ce qui est très lourd. Ou alors on le pose sur le ventre et ça fait les abdos. Je vois pas.
Mais l'idée est assez belle, cela dit.
L'idée est assez belle.
L'idée, oui. De ces femmes qui s'endorment et des mecs qui enragent.
Je vous rappelle qu'elle existait déjà, cette idée, La Belle au Bois dormant, oui. Ça fait un bout de temps.
C'était pas les femmes du monde entier. Il n'y avait pas ce cocon visqueux comme ça qui les.
Non, moi j'échange les 800 pages contre n'importe quel épisode de Stranger Things, qui est d'ailleurs à peu près la même histoire.
Bon, Arnaud.
C'est tout pourri leur affaire là. Ah oui.
Ah oui.
Ah oui, oui, je trouve qu'il y a pas, ça marche pas du tout. Enfin, ça ne démarre pas. Et en plus, il y a quelque chose. Ah, moi, je pense que là, il y a une. C'est quand même le passage de relais de Stephen King à son fils dans cette collaboration. Ils écrivent ça tous les deux, donc c'est quand même deux hommes.
Mais
qui
il paraît qu'il écrit déjà pas mal le fils. Enfin, qu'il avait écrit pas mal avant.
Enfin là, j'ai vraiment l'impression, d'autant que
l'idée du fils,
vient d'apprendre que
l'idée du fils,
absolument.
On vient d'apprendre que Stephen King postulait au poste de gouverneur du Maine, donc il a l'air de vouloir se lancer en politique. Oui, j'ai lu ça tout à fait sérieusement. Et donc j'ai vraiment l'impression d'un passage de relais. C'est assez intéressant.
C'est arrivé
que ça
à des
soit...
gens bien.
Ah oui, non, bien sûr, mais ça va être difficile quand même d'écrire avec la production qui était la sienne. Ça va être difficile s'il est gouverneur du Maine. Donc j'ai l'impression, oui, vraiment d'un passage de relais. Et je trouve ça un peu, comment dire, bizarre finalement de faire ce qui est finalement un vrai roman féministe. L'idée que les femmes vont sauver le monde, c'est la femme et l'avenir de l'homme, et que deux hommes finalement. Et d'ailleurs dans l'histoire, il y a quand même une entente parfaite entre un père et son fils. Ils ont répliqué visiblement leur rapport. Soit deux hommes, finalement, pour des raisons assez mercantiles, qui fassent l'apologie du féminisme. Ça m'a semblé assez bizarre.
Michel, est-ce que tu l'as lu, ce gros roman des
Je l'ai lu en
du
partie.
Père et du fils, King? Comment ça, ça veut dire quoi, en partie?
Ça veut dire que, comme toujours, quand je prends un livre de Stephen King, j'ai l'impression de monter dans un camion. Et alors, on met en route le camion, on roule. Et puis, 850 pages, j'ai pas les moyens physiques... Et mon
mais
camion
t'as lu quoi,
à moi.
Alors, des morceaux?
Non, j'ai lu 300 pages. En prenant le début, si tu veux, je suis parti du début.
Ce qui est déjà une bonne chose.
Oui, non, mais parce que maintenant j'ai un peu une théorie sur on peut commencer un livre au milieu, mais là non, j'ai pris par le début et ça m'a plutôt plu. Je suis plutôt dans un genre à me convertir à Stephen King. N'ayant absolument pas lu Stephen King quand Frédéric était adolescent, qu'il avait peur dans son lit, moi je lisais Jules Verne ou Edgar Poe, mais qui me faisait peur, mais chic, Edgar Poe c'est autre chose.
C'est plus chic. Oui.
Et donc là je démarre avec Stephen King et j'aime
son
bien.
Fils.
Et
j'aime donc bien. En fait tu et as lu que le passage dans la prison pour femmes. C'est ça le début, je te rappelle. C'est ça qui t'a plu.
Mais non, parce qu'en fait, je pratique aussi un peu une lecture en infrarouge, si tu veux.
Je comprends rien à ce que tu racontes, Michel. Mais
c'est normal parce que je n'ai pas compris moi-même.
Tu l'as lu dans un camion en infrarouge?
Non, j'ai eu l'impression, en prenant le livre, c'est simple, c'est une émotion simple, l'impression de monter dans un gros camion.
Oui.
Bon. Un camion de 800 pages.
Pour toi, c'est un savième.
Moi qui suis un adepte de la forme brève, c'est quand même un peu difficile. Bon, mais ok, on démarre. Mais au bout de 300 kilomètres ou de 300 pages, j'en ai quand même un peu assez. J'ai un peu aussi autre chose à faire. Et je considère que j'en ai lu assez pour transmettre une opinion. Ce que
tu sais quand même que tu es grassement payé pour aller jusqu'au bout des livres. Tu le sais quand même.
Grassement, c'est 0 degré de crème fraîche. Hein.
Enfin, c'est moi qui ai la revue des deux mondes, mais c'est quand même...
Et donc, je trouve que... Alors, je ne sais pas qui a écrit quoi... en tout cas, je trouve que c'est plutôt bien traduit.
Comment tu peux dire ça? Tu l'as pas lu en anglais?
Mais si, parce que j'ai au fond.
Tu dis n'importe quoi ce soir.
Mais non, mais pas du tout. C'est
ils
très
ont quand
clair.
Même oublié de traduire le titre. Hein,
la salle peut très bien
c'est
comprendre.
C'est quoi le titre?
Sleeping Beauty.
Ah oui.
C'est un voyage dans l'inconscient américain. Voilà. C'est l'inconscient américain.
Bien,
raconté,
merci.
Exposé
merci
par
pour
Stephen
ton
King.
Intervention, Patricia.
Bonjour l'inconscient américain, parce qu'on sent quand même...
Toi, l'histoire, elle t'a plu, non, l'histoire?
Oui, l'histoire m'a plu, mais je trouve quand même que le d'abord, c'est quand même trop long, et il y a trop de personnages. Au bout d'un moment, franchement, on se perd complètement. Sur le plan psychologique...
D'ailleurs, ils sont obligés de mettre à la fin la liste de tous les personnages de la ville.
Tu vas pas aller à chaque fois regarder qui est qui.
Ça fait une page de plus.
Non, mais sur le plan psychologique, moi, j'ai trouvé ça quand même assez simpliste, même là.
C'est rudimentaire.
Et vie qui est... Oui, rudimentaire. C'est exactement le... Tu vois, c'est un terme que...
C'est l'Amérique, hein.
Qui est approprié.
Bonsoir à nos amis d'outre-Atlantique.
Mais vie qui est ce personnage qui, sinon principal, en tout cas très important. Au fond, on sait pas qui elle est. Puis je trouve que ce qui est quand même dommage, c'est que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, au fond? C'est se moquer des travers des hommes qui sont complètement affolés dès qu'ils voient une fille en soutien-gorge. Et parce que ça, c'est écrit noir sur blanc.
Et encore plus affolé quand il ne voit plus de filles.
Voilà, mais qu'on retombe quand même dans une démonstration extrêmement hystérique. Là, je trouve qu'il y a quand même un truc qui ne colle pas. Mais à part ça, d'abord, je préfère m'enquiquiner 800 pages avec eux que 245 avec Delacour. Ça, c'est évident.
Ça, c'est dur. Ça, c'est
je trouve qu'il a,
ça, je
il y a
qu'on
quand
l'avait
même...
compris. Hein.
Non, mais
ça,
il y a
ça.
Un sens de la narration. Il y a une impression d'enfermement. Et pas seulement dans Dôme, il avait magnifiquement fait ça, cette ville comme ça, sous cloche. Mmh. Et on retrouve ça un peu, et pas que dans la prison. Il y a des images très fortes. Il y a par exemple un petit garçon, à un moment donné, qui a l'habitude de faire la sieste avec sa maman et qui se réveille. Et puis sa maman, précisément, elle devient cette chrysalide. Alors le petit garçon sort dans le jardin, est complètement affolé, il se met à hurler. Il y a beaucoup de scènes comme ça. Donc il y a un réel savoir-faire, un réel sens de la narration. Maintenant, franchement, je trouve ça long. Hein.
On parle quand même de l'auteur de Carrie,
de
Misérie, de Shining.
Incroyablement porté à l'écran, quasiment pour tous ses livres.
Là, on est très très loin du chef-d'œuvre.
Bon, c'est Sleeping Beauties et c'est donc Stephen et Owen King. Elle était à Paris en mars pour le Salon du Livre. C'est sans doute la plus grande romancière russe contemporaine. J'ai nommé Ludmila Ulitskaya qui publie L'échelle de Jacob, traduit du russe, très bien traduit du russe, chez Gallimard par Sophie Benesch. Le cœur de ce roman qui traverse le XXe siècle, c'est une malle dans laquelle Maroussia a placé sa correspondance avec son mari Jacob entre 1911 et 1936. Leur petite fille, qui s'appelle Nora, découvre ses lettres et surtout l'histoire de sa grand-mère qui était une féministe avant l'heure, danseuse rythmique et communiste jusqu'au jour où Jacob est déporté au goulag en Sibérie pour sabotage. Tout le monde, même leur fils, le père de Nora, tourne alors le dos à la belle Maroussia. Nora ne cache pas avoir hérité d'elle puisqu'elle est scénographe, libre de ses idées et de ses amours, et elle élève son fils seul. Un roman, disons, de 620 pages, c'est-à-dire quasiment une nouvelle, Arnaud.
Et bien là, c'est le contraire de Stephen King. C'est-à-dire qu'au début, j'ai pris peur, de la même manière que chez Stephen King, il y a la liste des personnages à la fin. Là, elle est au début. C'est un arbre généalogique qui s'étale sur deux pages. Oui. J'avais l'impression d'être une caricature de roman.
D'autant que les noms, il faut les retenir. Hein.
Voilà. Mais en fait, je suis rentré là-dedans comme dans du beurre. Ça se lit avec une facilité incroyable. C'est passionnant. Ça couvre énormément de choses, c'est-à-dire la musique, le théâtre, les mathématiques, sur quasiment un siècle. Et c'est tout le temps incarné par des personnages très beaux, l'émancipation des femmes, le féminisme, mais aussi la manière dont certains êtres, c'est très intéressant comme idée et ça revient plusieurs fois, la manière dont certains êtres ne peuvent pas aller à l'école, comment c'est une structure qui n'est pas faite pour eux. C'est une idée là très très belle et très importante. J'ai vraiment pensé souvent à Elena Ferrante, mais il y a quand même quelque chose que cette Lumia, je sais plus comment
on dit, Ulitskaya.
Ulitskaya a de beaucoup plus fort qu'Elena Ferrante, à mon avis, c'est que Elena Ferrante, ce qui est pas lourd chez elle, ce sont ses personnages masculins. Alors qu'ici, les personnages masculins et féminins sont tous formidables. Ils sont tous absolument incroyables, très différents les uns des autres, puisqu'ils ne vivent de toute façon pas à la même époque. Et c'est vraiment un grand livre. Ce qui m'a plu, finalement, c'est ce classicisme. C'est un grand livre. C'est l'idée même qu'on peut se faire ici du roman russe. Mais c'est parfaitement fait. Et d'une manière, on va dire, moderne.
Et puis ça, en même temps, ça traverse réellement l'histoire russe du
grand livre,
du 20e siècle. D'ailleurs, je signalais qu'elle était venue à Paris au Salon du Livre. Je précise qu'elle faisait pas partie de la délégation officielle
de Russie,
de Monsieur Poutine. Frédéric.
Ça m'étonne pas parce que pour moi, c'est un peu le pendant romanesque de ce que fait Svetlana Alexievitch, qui a eu le prix Nobel. Vous savez, elle compile des témoignages et elle fait comme une sorte de... Elle fait des livres de mémoire, mais à partir de témoignages montés et collés, comme ça. Et là, ce que fait Ulitskaya, c'est intégrer dans une fiction, tu as tout à fait raison, tolstoïenne, quoi, à l'ancienne, très très belle. Elle intègre là-dedans des archives. Il y a de la correspondance, il y a des journaux intimes. Et tout ça marche excellemment bien et c'est vraiment... je dirais non seulement c'est monumental, mais c'est fabuleusement nécessaire pour comprendre l'histoire de l'Union soviétique. Et c'est un auteur très très important et je pense que ça doit déplaire effectivement en haut lieu. Par ailleurs, la forme...
Elle a des propos hors littérature qui sont assez courageusement sévères pour le pouvoir en place.
Admirable.
Bah elle-même, elle en a, enfin, au départ, elle était pas du tout. Elle est venue tard à la littérature. Je crois qu'elle était scientifique et que c'est parce qu'elle fréquentait des écrivains dissidents qu'elle a été fichue hors de son laboratoire et que là, elle s'est mise à écrire. Non, on peut penser aussi à ces Vie et destin de Vassili Grossman. C'est vraiment de ce niveau-là. C'est un peintre des âmes et des âges aussi. Et je trouve qu'elle est merveilleuse avec les petits et avec les vieux. Là, elle est absolument éblouissante. Et effectivement. En couverture, il paraît que c'est sa vraie grand-mère. Maroussia, avec ce teint de porcelaine et un petit air mutin, elle est très attachante. Mais celui qui est absolument extraordinaire, je trouve, c'est Jacob.
C'est Jacob, oui.
Cet homme qui est droit, qui est aimant, qui est gentil, qui souvent est un peu naïf, qui pense que c'est par une femme qui va s'élever. Sa dernière lettre à Maroussia, d'ailleurs, à laquelle il n'obtiendra jamais de réponse, elle est absolument bouleversante. Il sait qu'ils ne se reverront jamais et qu'ils pourraient se revoir, mais qu'ils ne se reverront jamais. Et il lui dit cette chose absolument extraordinaire. Il lui dit « Merci pour le passé. Quel est celui d'entre vous qui écrirait ça à une femme avec laquelle vous n'avez que très peu vécu et que vous avez aimé, mais en des temps très anciens » Dites-le-moi.
Mais non, moi tu veux qu'on te le dise?
Bah oui, je voudrais que vous répondiez.
Alors, tu me dis merci pour le présent.
Merci pour le passé, Patricia. Michel?
Oui, alors effectivement, c'est un peu l'après Tolstoï qui commence avec ce roman.
Bien vu.
Bien vu. J'en profite pour saluer la traductrice excellente Sophie Benesch,
oui.
qui très courageusement, traduit beaucoup de textes qui passent inaperçus complètement dans sa petite maison d'édition qui s'appelle Interférence, je crois. Je suis même pas sûr, seul, je m'excuse. Et donc, elle a fait un travail formidable. C'est un peu l'art de faire du panoramique avec des microscopes. On sélectionne des fragments, des morceaux d'époque, et puis on explore, on explore, on explore. Ça m'a un peu gêné. Personnellement, même si je trouve que ce livre est un grand livre, et qu'en effet, il marque une date dans la longue histoire de la littérature russe, une étape d'après Tolstoï, je préférerais toujours un petit poème de Mandelstam de 3 lignes à ces 600 pages de saga intrafamiliale qui demande quand même au moins 3 semaines de vacances, 3 semaines de plage pour être lu.
L'échelle de Jacob, c'est donc chez Gallimard et c'est signé Ludmila Ulitskaya. Et on termine avec un livre sur un sujet que vous connaissez tous par cœur, puisque 5 ans après avoir remporté un gros succès avec son livre sur Montaigne, il faut dire qu'il était conçu un peu comme un manuel de développement personnel, et ça s'appelait « Comment vivre ». L'anglaise, je dis bien l'anglaise, Sarah Backwell, revisite la bande de Sartre et Beauvoir dans « Au café existentialiste », sous-titre « La liberté, l'être et le cocktail à l'abricot ». C'est traduit, très très bien traduit chez Albin Michel, oui, par Pierre-Emmanuel Doza et
dire.
Aude de Saint-Loup. Un petit livre, puisqu'il fait 500 pages, mais conçu un peu comme une série télé. Ça commence en 1932 dans un café de Montparnasse qui est le Bec de Gaz, où Sartre et Beauvoir écoutent Raymond Aron, qui revient de Berlin, leur présenter la phénoménologie allemande. Un verre de cocktail à l'abricot à la main. Tu vois, dit Aron à Sartre, tu peux parler de ce cocktail. Et c'est de la philosophie, et c'est le début de l'existentialisme, dont le QG, je le rappelle, est situé à Saint-Germain-des-Prés, ses bistrots, ses caves de jazz, sa chanteuse, Juliette Gréco, sa trompette, celle de Boris Vian.
J'aurais dit Miles Davis, mais en
ses
effet.
Ses amours contingentes, ses brouilles historiques, ses cols roulés, son ombre portée, qui est celle de Martin Heidegger, et bien sûr, ses œuvres de la nausée au deuxième sexe, en passant par Être étant. Un livre évidemment de vulgarisation, mais qui remporte, comme pour le Montaigne, beaucoup de succès en France. Frédéric,
c'est un peu l'existentialisme pour les nuls, quand même.
Oh non.
Bah, c'est bien, on va discuter. Je trouve que j'avais l'impression d'avoir déjà lu presque toutes les anecdotes qui sont dans ce livre. Je suis désolé. Quand on a lu Le lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann ou Les rats de Bernard Franck et qu'on s'est un peu intéressé, qu'on est un peu allé en cours de français. Il y a, alors le truc que j'ai appris, c'est que Sartre disait aux filles, venez dans ma chambre renifler mon camembert. Ça, je savais pas.
Mais tu rigoles, mais moi, je suis allée regarder...
Ce sont des Anglais pour le fromage français.
Mais c'est non, ça. Mais attends, non, moi, mais je suis allée regarder dans le dictionnaire pour voir s'il n'y avait pas un sens figuré à ça, à camembert.
Ah, t'as compris ça, toi?
Non, je suis allée voir dans dictionnaire.
Non, mais...
Pour savoir,
non,
il n'y a pas de sens.
Mais non, parce qu'à l'époque, après la guerre, on n'avait pas eu de fromage depuis
peut-être
longtemps.
C'est ça que le gars dans le Grégoire de la Cour, il a fait à la fille.
Exactement.
Il a fait renifler son camembert. Maintenant, là, je commence à avoir la solution de l'énigme.
Finalement, c'est un très bon livre.
Ouais. Finalement. Mais non, tu as dit vulgarisation. Oui, c'est un petit peu une vision aussi un peu idéalisée. Oui, c'est ça. Mais c'est une vision un peu angélique de la bande à Sartre, Beauvoir, Camus, Merleau-Ponty.
Ils passent leur temps à s'engueuler.
Oui, bah, oui mais on le savait.
Les passages de Heidegger sont bien traduits. Je
trouve. Ah ouais.
Voilà, moi je suis désolé. Je trouve que ce qu'elle écrit sur Boris Vian est à la limite injurieux. Enfin, c'est une mauvaise notice Wikipédia quand même. Il faisait de la trompette
oui,
à Saint-Germain-des-Prés.
Une mauvaise notice Wikipédia, ça peut être un chef-d'œuvre.
Bon, ça peut être je sais pas. Je me souviens qu'il y avait un livre un peu oublié d'Herbert Lotman qui s'appelle La Rive Gauche, histoire intellectuelle de l'après-guerre en France, qui était exactement le même livre. Hein. Exactement.
Donc Frédéric très déçu, mais Patricia très contente.
Ah moi j'ai trouvé ce livre très d'abord c'est hyper pédagogique parce que je suis désolée, mais c'est pas pour les nuls. C'est parce que elle tu sens quand même qu'elle domine vachement bien son sujet, qu'elle l'adore et elle sait raconter une histoire. Et en ce sens-là, c'est un livre
mais
terriblement
que tu
sexy.
Que tu connais un peu déjà.
Bah, que tu connais déjà, c'est mais sûr. Oui, alors tout a déjà été dit et tout bah, a, tu vois, et on est.
Ah non, non, trop... non, le Lambeau de Philippe Lanson, ça n'a
non,
jamais été dit.
D'accord, mais si tu parles de Sartre et Beauvoir, évidemment, bon. Et en même temps, moi, je savais pas, par exemple, la rencontre entre Sartre et Heidegger qu'elle raconte. Alors,
elle a été beaucoup racontée. Si,
ah bon oui. Bah, moi, je la connaissais pas. Oui. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même une façon tout à fait intéressante de parler de la philosophie et de. Elle manie quand même pas mal de concepts et en même temps de voir que derrière ces concepts, il y a des gens. Et c'est, donc cette philosophie, elle est incarnée. Et que la philosophie, elle va plutôt du côté de l'ignorance que du côté de la certitude. Et là, là-dessus, elle a tout un truc autour de Merleau-Ponty. Moi, je suis désolée, je l'ai lu avec énormément de plaisir, ce livre.
Et Michel, tu me regardes comme ça, Michel, as-tu éprouvé du plaisir ?
Eh bien, paradoxalement, oui.
Ah, enfin.
Paradoxalement.
Ah, bah dis-moi, tu arrives à la fin de l'émission.
Bah oui, j'étais inquiet. Mais non, comment dire. On a l'impression, en effet, que c'est pour les nuls. Et sans doute qu'il y a beaucoup de nuls qui sont concernés.
Mais. Oh là
Non, mais attendez, mais vous êtes. Mais c'est pas possible.
Mais laissez-moi finir.
C'est les intellos de Saint-Germain, ici, c'est non, dingue.
Je trouve ce livre, bah, ça parle de ça.
Je trouve ce livre foncièrement malicieux. Et donc, j'aime bien ce livre.
Il y a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup de passages avec lesquels je suis pas d'accord. Enfin bon, mais on peut discuter à l'infini et c'est très bien comme ça. Mais c'est un livre malicieux. Donc elle connaît bien le dossier. Hein, elle connaît bien. Et c'est quand même assez paradoxal justement de lire des choses qu'on connaît déjà absolument par cœur, mais qui néanmoins fonctionnent. Ça c'est assez fort.
Ce qui explique d'ailleurs le succès qu'elle rencontre pour chacun de ses livres sur la France en France.
Oui, c'est étonnant.
Arnaud.
Ah, moi, j'ai trouvé ça très bien. Moi, je trouve que c'est quand même assez difficile de rendre Heidegger à peu près aussi limpide que la recette de l'omelette au cèpe. Et c'est vraiment ce qu'elle arrive à faire.
Voilà. Tu avec le côté série, encore une fois. Il y a presque le côté série télé, je trouve.
Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de théories, l'air de rien. Il n'y a pas que des anecdotes sur Saint-Germain-des-Prés dans les années 50. C'est vraiment quelles sont les bases philosophiques de l'existentialisme à partir de Husserl et Heidegger. Et elle fait ça vraiment très, très bien. Je veux dire, le bac de philo approche, effectivement. Toutes celles et ceux qui le passent devraient se plonger dans ce livre, parce que là, il y a vraiment toute la philosophie du XXe siècle et l'idée de bon, celle de Camus aussi, la liberté. Évidemment,
il y a Merleau-Ponty.
Beaucoup d'anecdotes, évidemment, je les connaissais. Et en plus, je trouve que il y a un avantage à ce livre, c'est que on évite la mesquinerie française dès qu'il s'agit de Sartre et notamment de ce qu'il a pu fabriquer pendant l'occupation. Mmh. Et ça, ça fait du bien aussi d'en sortir de ces histoires.
Et t'as pas trouvé que c'était des clichés? Comme tu sais, comme dans les films américains qui se passent à Paris, où tout d'un coup on entend un accordéon.
Ben si, c'est des clichés, mais ils fonctionnent.
Midnight in Paris de Woody Allen, qui est son moins bon film.
Oui, mais en même temps, encore une fois, dès qu'elle aborde la problématique de fond et la philo, elle est très claire, très pédagogique.
Ouais, elle maîtrise bien.
Et elle ne fait pas d'erreur, à mon sens.
Elle dit quand même que Sartre a tout pompé sur les Allemands.
Oui, bien sûr. Enfin,
mais voilà, ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, on le savait.
Oui, mais elle explique très, très bien, justement, la manière, le rapport entre être temps de Heidegger et l'être le néant de Sartre, voilà, tu vas nous expliquer ça très simplement. Ouais.
Très bien traduit.
Il y a une vraie...
Mais il est en boucle, lui.
Une vraie déclaration d'amour à Simone de Beauvoir.
Oui, hein.
Alors ça, elle finit d'ailleurs avec Beauvoir.
Oui, elle adore Beauvoir.
Et tout ce qui est autobiographique chez Beauvoir.
Simone de Beauvoir qui va être en Pléiade.
En Pléiade, deux volumes qui sont
pas trop tôt,
préparés, annotés par Sylvie Lebon de Beauvoir dans quelques semaines qui vont paraître. Ça va être un gros événement. Et donc là, c'est au Café Existentialiste, La Liberté, l'Être et le Cocktail à l'Abricot. Et c'est donc de Sarah Bakwell et c'est aux éditions Albin Michel. On a le temps de conseiller des romans, des essais, ce que vous voulez. On va commencer avec Arnaud.
Quai de Vincent N. aux éditions Séguier. Vincent N. est dans la jeune génération des écrivains voyageurs, c'est sans doute mon préféré. Et il a eu cette idée d'aller voir le pont de la rivière Quai.
Ah, c'est ça, Quai.
Voilà, Quai.
Le vrai pont de la rivière Quai.
Oui, il est allé là-bas voir. Et alors, c'est un peu comme...
Existe encore, ce pont?
Oui, bien sûr, il existe encore. Alors, ça a été transformé en un musée. Maintenant, ça se trouve en Thaïlande. Donc il est allé là-bas et c'est un petit peu comme Marguerite Duras avec Hiroshima, c'est tu n'as rien vu à Kauai. Il y a rien. Donc c'est justement.
Je rappelle qu'à l'origine c'est un roman de Pierre Boulle.
Oui, bien sûr, oui. Il en parle d'ailleurs. Sûr, il dit beaucoup de mal de Pierre Boulle et du roman en particulier. Ah, oui, mais je suis pas forcément d'accord avec lui, mais il dit pas mal de mal de Pierre Boulle en l'occurrence, parce que comme il n'y a rien à voir à Kauai, soudainement il part dans un voyage intérieur où il parle de sa famille, du rapport à la guerre dans sa famille, et donc il y a quelque chose comme ça soudainement d'un voyage intérieur, oui, c'est-à-dire le voyage extérieur se transforme en voyage intérieur. Moi qui déteste voyager, j'étais très content de savoir qu'il n'y avait rien à Kauai, et du coup je trouve c'est magnifiquement écrit. Là pour le coup c'est un petit livre, ça fait 150 pages, et encore une fois, je me suis dit, très bien, j'irai jamais voir le pont de la rivière.
Et pourquoi on fait pas un masque et la plume de là-bas?
C'est un très bon titre.
Sur le pont, oui, c'est un peu grand.
Je n'irai pas voir le pont de la rivière.
Donc, quoi, et c'est aux éditions Séguier. Le conseil de Frédéric.
Y a un garçon sur Inter qui s'appelle Guillaume Meurice.
Ah, qui est très bien son
qui fait, voilà, qui fait
Flammarion.
Il fait des chroniques dans l'émission
Incroyable.
Par Jupiter.
Avec des interviews. Il est assez marrant. Tellement bonnes qu'on croit qu'elles sont inventées.
Oui, il est engagé en plus. Bon, voilà. Et alors, il fait un livre qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait à la radio. C'est un délire d'enquête poétique sur le poème Voyelles de Rimbaud. Vous vous souvenez, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Et alors, c'est un peu comme le Da Vinci Code, c'est-à-dire qu'il cherche une clé cachée. Une signification secrète.
Il a rencontré
quelqu'un,
un copain, qui est persuadé d'avoir trouvé la clé. Oui.
Et qui donne son titre au livre, qui s'appelle Cosme, Cosme Olvera, qui est un poète basque de Biarritz, autodidacte, passionné d'échecs, aventurier, un peu délinquant.
Il a travaillé dans le chiffre aussi, quand il a fait son service militaire. Du coup, il a quand même cette vocation à vouloir déchiffrer.
Franchement, je connais pas Guillaume Meurice.
En plus, très bien écrit.
J'ai commencé le livre et je n'ai pas pu le lâcher jusqu'au bout parce que j'avais envie de savoir vraiment quelle était la signification de ce vieux poème qu'on a tous étudié à l'école et dont faut avouer qu'on comprend pas grand chose. C'est un très très beau poème incompréhensible. Et là, alors,
Et surtout que beaucoup de gens ont cherché à déchiffrer.
Aragon, oui, Breton, voilà.
Beaucoup. Et Robert Faurisson, le négationniste.
Et alors là, donc c'est.
Oui, bien sûr.
A noir, E blanc, I rouge, U vert et O bleu, ce seraient les quatre couleurs, donc des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et, bleu, ce serait Dieu. Et le nombre de lettres du poème, c'est 666. Il y a donc un sens apocalyptique et satanique derrière le poème de Rimbaud, révélé dans ce livre Cosmé de Guillaume Meurice.
Et c'est chez Flammarion.
Très, très épatant. Très surprenant et très épatant.
Et je m'associe aussi avec toi.
Et moi aussi.
Et Arnaud, pour ce conseil de Guillaume Meurice. Mon conseil, c'est Le Chagrin d'aimer. Et c'est signé Geneviève Brisac chez Grasset. Elle fait le portrait de sa mère. Une mère démontée, et qui fumait du matin au soir, qui satisfait comme la folle de Chaillot, qui volait de la vodka dans les supermarchés et qui ne lisait que la série noire. Elle détestait d'ailleurs les enfants, même les siens. Fille d'une danseuse grecque et d'un arménien de Constantinople qui s'appelait Hélène Misserli. Elle avait adapté Agatha Christie pour la radio dans des feuilletons. Et voilà, Geneviève Brisac dresse la liste des rosseries de sa mère et en même temps, elle nous donne des raisons de l'aimer. Ça s'appelle Le Chagrin d'aimer et c'est chez Grasset. Le conseil de Patricia.
Alors c'est un livre que j'ai reçu il y a quelques jours et dont la couverture m'a donné envie de le lire.
On est
quand même en public.
Tu es en train de montrer la couverture.
Je te rappelle que tu es quand même dans un studio public. Tu sais qu'il y a des personnes
qui sont venues. Tu sais qu'il n'y a pas de caméra dans ce
studio. Non, mais d'accord, il n'y a pas de caméra. Mais enfin, bon, je vais raconter. C'est une jeune fille. Et cette jeune fille, en fait, c'est probablement Leyla Erbil, qui est une romancière turque, qui est morte en 2013, dont on avait parlé à un moment donné pour qu'elle obtienne le prix Nobel de littérature. Et c'est son premier roman. Ça se passe à Istanbul dans les années 50. Et c'est tout ce mouvement féministe turc des femmes, de tous les tabous dont les femmes ont été les premières victimes. Alors qu'il faut rappeler, les femmes turques avaient eu le droit de vote plus de 10 ans avant les Françaises. Mais c'est un très beau livre.
Et le titre, Patricia ?
Ça s'appelle Une drôle de femme. Et c'est très très bien traduit. C'est chez Belleville Édition.
Michel, pour finir.
De François Tabouret, j'ai pas mes lunettes, un livre qui s'appelle Traversée chez POL. Et c'est un livre absolument magnifique où l'auteur raconte qu'il transporte des animaux à travers les mers.
Notamment
travers le
des
monde,
chevaux.
Des chevaux, pas seulement des chevaux.
Non, mais
chevaux,
essentiellement des chevaux.
Mais essentiellement des chevaux. Mais pas seulement des chevaux. Et c'est un livre magnifique, c'est un livre claudélien sur la création, sur les animaux. C'est très étonnant.
Très bien, en plus c'est en français, donc ça n'a même pas traduit.
Et c'est extrêmement bien auto-traduit du français.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Patricia Martin, Michel Crépu, Arnaud Vivian et Frédéric Becbédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir au Charles Trenet à la technique et je les remercie Philippe Mercher, Jean-Benoît Tétu et Lucas Vaillant. La réalisation était de Didier Lagarde et vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est un vendredi, le vendredi 20 avril. Je vous attends très nombreux à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre au théâtre. Dans une semaine, on parlera de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.